Votre question sur la pertinence de la réforme des territoires, bon, on le voit à l'évidence. Quand on arrive au bout d'un système, on voit qu'il est plus, le costume est plus adapté à l'exercice. Hein. Donc, moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette réforme, même s'il y a quelques problèmes politiques autour. J'espère que ça va se régler et qu'on pourra avoir enfin un outil de décision qui évite qu'au rond-point du coin, là, du quartier, on ait 8 financeurs les uns derrière les autres, enfin, qui sous-entendent derrière des tas de procédures. Et pour nos projets, là, nos problèmes d'environnement, c'est encore pire. Parce que comme il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas trop de compétences, on se cherche. Enfin, il faut vite refaire le cadre. Mais je voulais... Alors, n'ayez pas peur. Hein, j'ai fait ça il y a deux jours là, aux États généraux de l'industrie pour parler d'innovation et surtout pour mettre en évidence tous les vecteurs qui sont autour du rectangle vert. C'est-à-dire tous les leviers, les moyens d'interférer en positif, j'espère, sur l'innovation en elle-même. Alors, on n'a pas le temps de le développer, je vais vous laisser le schéma, hein, mais vous pourrez le reconstruire. Hein, c'est une vaste approche, une vague approche systémique avec, si vous voulez, l'approche d'un besoin, une mesure de delta, des principes de réalisme, est-ce que je peux aller en vélo sur la Lune, les moyens techniques, financiers que l'on trouve à sa disposition. La partie humaine avec les renforts possibles de l'extérieur, l'équipe interne, est-ce que j'ai des compétences, tous les stimulus qui font l'innovation ou l'innovateur, si vous voulez, d'avoir de la formation entrepreneuriale qu'on commence à voir apparaître dans les grandes écoles, mais ça peut être aussi le motif de l'argent, de la citoyenneté, que sais-je, de la gloire, la mise en projet qui est un métier en soi et qui n'est pas toujours présente dans ces projets, la motivation, alors la motivation c'est un aboutissement de tout ce parcours-là, mais c'est aussi à regarder dans un contexte, c'est la crise, est-ce que j'entreprends? Nous sommes à plusieurs à entreprendre, à y aller, c'est plus motivant que si je suis tout seul à contre-courant. On réalise l'évaluation des résultats, qui est-ce qui me juge, mon banquier, mes actionnaires, l'administration, les processus d'apprentissage, ce qu'on pourrait encore aussi développer, comment je les traite, je peux même me faire aider là-dessus, et comment j'enrichis mon expérience, qui va venir interférer après sur chacun de ces petits carrés. Donc je vous laisse, on ne va pas développer, on n'en a pas le temps. Je vais tout de suite passer à la partie plus de conclusion. Voilà. Alors, j'avais une question, parce que j'ai entendu ce matin, le mot innovation technique. C'est vrai que ça souligne en fait ce qu'on pourrait peut-être dénoncer, si vous me permettez, c'est que la France, c'est l'innovation toute technologie et surtout technologie produit. Je m'entends amener par OSEO un projet sur de l'innovation financière ou sociale, vous allez vous faire ironer, ou sur le contenu des tuyaux de communication, qu'on en a parlé ce matin, que j'ai rajouté là. Même l'aspect produit est en soi suspect, c'est-à-dire que le dépôt de brevets en France, c'est 80% porte sur les produits et 20% sur les procédés. Au Japon, c'est l'inverse. Hein. Pourquoi? Parce qu'en brevetant sur les procédés, vous luttez contre la délocalisation, vous obligez à l'investissement. Et je rappelle qu'on est en carence sérieuse d'investissement en France et on va le payer assez rapidement. Alors, ne nous arrêtons pas qu'à l'innovation. Allons jusqu'au bout du processus, je l'écris un petit peu plus loin, hein, de l'idée au marché. D'accord? De l'idée au marché. Il faut gérer l'ensemble, et vous avez vu si on peut arriver à le faire en regardant la filière dans sa globalité. L'enjeu, la compétitivité, j'aime dire la protection de la planète, la qualité de la vie, je ne vais pas vous la rejouer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos réflexions de ce matin et de cet après-midi? Bon, une des difficultés de l'exercice que j'ai noté, c'est l'analyse le niveau auquel on situe sa réflexion. On prend des données macro, là, des milliards de mégawatts et je ne sais quoi. Bon, bah, très bien, tout ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain, sur le citoyen, sur l'entreprise, sur nos territoires? Comment décliner tout ça par rapport à mon atypisme, par rapport à mes forces, mes atouts? Donc, il y a au moins trois niveaux à prendre en compte, hein, les données macro, mondiales, quand on parle de climat. Le pouvoir que l'on a et qui n'est pas toujours très évident, j'allais dire, dans un niveau mezzo, c'est-à-dire le niveau intermédiaire auquel nous situons nos actions ici autour de la table, à peu près tous. Et puis l'action en micro, c'est-à-dire l'action de l'entreprise, voire du citoyen. Donc cette déclinaison, ce niveau de réflexion, je ne motiverai pas, je ne pense pas, le citoyen lambda, si je lui dis qu'il y a tant d'émissions de CO2 en Chine et il faut que tu fasses un effort. Quoi. Enfin, vous voyez, il y a des disproportions comme ça qui entravent la communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut constater aussi dans ces débats d'aujourd'hui, c'est que tout est conflit. Tout est conflit ou tout est contradiction. C'est peut-être une réflexion un peu plus philosophique, si vous me la permettez, mais je suis toujours en balance entre mon égoïsme économique, l'intérêt collectif. Je suis toujours en balance, moi, dans ma réflexion, entre le maintien de l'emploi traditionnel sur mon territoire, dans la chaussure, etc., parce qu'il y a beaucoup d'emplois et des bouches à nourrir, et puis de prendre un risque social vers de nouvelles technologies qui peut-être vont échouer, peut-être vont m'amener dans le mur, et que bon, mais faut que quelqu'un prenne ce risque-là. Politique, financier, hein, voire même en formation, etc. Les contraintes coûteuses, les contraintes qui arrivent sur les entreprises, prenons l'exemple de Céveso qui me vient en tête, hein, qui ont fait que toute la chimie est partie à l'étranger où on ne s'était pas posé ces mêmes questions. Contraintes et compétitivité des entreprises. Politique court terme, long terme, ça a été évoqué sur la réforme des territoires. Est-ce que je privilégie l'argent à mettre dans le carrefour giratoire là, pour mes citoyens qui votent pour moi, ou est-ce que je vais acheter un tétra laser là, qui portera ses fruits dans 40 ans? Bon, la question se pose. Hein. Le territoire doit prendre, il y en a d'autres. À chaque fois, c'est conflit. Il faut que je cherche la bonne médiation. La discussion avec le citoyen est aussi dans ce cadre-là. Hein. Le territoire doit prendre des initiatives fortes tout en gardant la capacité d'adaptation. Alors, je l'ai peut-être personnellement un peu accentué en disant attention à ne pas trop parler de structuration qui fige un système, hein, et qui lui apporte des contraintes après avec lesquelles on est obligé de vivre, même des fois inconsciemment. Je faisais allusion au territoire administratif. Hein. Voilà, alors justement, pour faire le lien avec ces formats de territoire, bon, le territoire est-il pertinent pour tel ou tel projet ou découpage administratif, se justifie-t-il après coup pour faire une boutade? Exemple, la hiérarchisation de l'organisation de l'énergie. Hein, donc voilà, la réponse, mais elle est facile. Hein, la taille doit correspondre à la maîtrise des modes de décision du système concerné. Il faut que dans le raisonnement, dans les gens qui travaillent sur un projet, on ait autour de la table ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir de décider et de faire bouger les choses. Sinon, on parle en l'air, quoi. On parle dans le vide, on s'est trompé, on ne fera rien du tout. Hein. Et sommes-nous nous-mêmes dans ce système concerné quand on provoque? Première remarque, je continue. Ici, alors, j'aurais pu me mettre en mode projeté, hein, c'était mieux. Alors, ne pas confondre l'administration des territoires et l'animation des territoires, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui l'a dit, non, c'est Antoine qui a dit ça, c'est Serge. Ou Alain, je n'ai pas encore retenu tous les noms. Hein, je crois que c'est quelque chose d'important et c'est d'autant plus important que c'est de là sont nés les agences de développement. Merci Alain. La gouvernance ne peut être spatiale, hein, elle ne peut s'affranchir des acteurs privés du développement. Ça aussi, on n'est pas dans un état dirigiste. Hein. Il faut quand même que ceux qui mettent la main à la poche, ceux qui prennent les risques au sens privé du terme, ben, soient des acteurs et qu'on trouve, nous, les moyens de les motiver, de les animer, de les informer, de les faire bouger. Donc, dans des ruptures importantes comme le développement durable, hein, de la cohérence, de l'information, alors ça a été effectivement, je crois que c'est très important, hein, jusqu'aux citoyens, avec la difficulté que chacun n'est pas un expert. Chacun n'est pas un expert. On a encore des manifestations devant le laser mégajoule, alors que c'est la bombe propre, c'est-à-dire qu'on ne sort que des neutrons qu'on arrête avec un mur en béton, hein, mais ça fait rien, on a quand même des manifestations de ce côté-là, ça a été évoqué pour l'éolien. Hein. Et j'ai retenu, moi, une chose intéressante quand même, si on veut travailler sur ce niveau-là, c'est d'être en proactivité par rapport aux citoyens pour en faire un acteur. J'ai réservé comme dernière ligne de conclusion, il n'y a pas de territoire condamné, hein, ça a été demandé aussi, mais il y a des territoires sans projet, indépendamment de sa taille. Donc, ces territoires sans projet, les énergies nouvelles, l'environnement, le climat, ce sont des formidables opportunités pour une ambition de territoire, le montage de projets pour concrétiser cette ambition.